Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Il y a, je crois, chez l'homme une volonté farouche de dominer, de posséder, de poser sa marque de fabrique sur la nature. Nous, pour survivre, c'est marcher, explorer, n'avoir pour frontière que la satiété de nos ventres, et nous méfier du sédentaire, l'homme. Parce que je suis une bête, les humains me croient stupide, insensible, ignorante, brutale. Je ne suis pas mue que par mes instincts, je suis un être vivant. Comme eux, la violence sans raison me déplaît. Mais quand l'homme comprendra-t-il que ce monde n'est pas sa propriété, mais une copropriété que nous devons partager et entretenir ensemble? Si vous pensez, avec l'ours, que l'homme doit être raisonnable pour deux, alors je vous recommande l'appel à la réconciliation lancé par Frédéric Bourgade dans son ouvrage « Dans la peau de l'ours » paru en 2025 aux éditions Un autre regard. Bonjour Frédéric Bourgade.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir à Parole d'auteur. Bienvenue sur Radio Présence. Je salue nos fidèles auditeurs et je leur rappelle que cette émission pourra être retrouvée en podcast sur toutes les grandes plateformes numériques. Première question, Frédéric Bourgade. Pour un premier roman, est-ce que vous n'auriez pas pu choisir la louve plutôt que l'ours?
Non, j'ai pris l'ours parce que c'est un sujet bien sûr que je connais, parce que c'est un sujet d'actualité permanente. Notre relation à l'ours dit beaucoup de choses de qui nous sommes avec notre environnement. Et puis ce sujet me tenait à cœur parce que pendant de nombreuses années, en tant que journaliste à France Inter et France Info, j'ai suivi ce dossier et donc j'avais aussi éprouvé dans la durée la difficulté que l'homme rencontrait avec l'ours. Alors j'avais envie d'écrire sur l'ours.
D'accord. Alors, nous allons y revenir naturellement en détail. Pour ceux parmi nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, je rappelle que vous avez été une des voix toulousaines de France Info et de France Inter pendant de nombreuses années. Vous avez collaboré, j'ai cru comprendre, à Libération.
Oui.
Vous avez aussi collaboré avec le journal Satiricon à Toulouse.
Oui, tout à fait. C'était sacré à l'époque, évidemment. Mais oui, bien sûr, j'ai participé.
Vous faites, j'ai noté aussi que vous aviez fait, peut-être que c'est toujours le cas, vous faites des interventions à l'université.
Alors c'est terminé parce qu'il y a un moment donné, il faut céder la place aux jeunes et comme je ne le suis plus, j'ai cédé mon tour.
D'accord. Alors donc, on peut dire que vous avez une expérience de la radio qui est au-delà de 30 ans.
Oui. Malheureusement, parce que ça veut dire que je suis plus très jeune, mais voilà, j'ai toujours en tout cas envie d'écrire sur et à propos de ce qui préoccupe les hommes.
Et est-ce que le journalisme a été définitivement abandonné ?
Non, pas définitivement, parce que je collabore à la Dépêche du Midi et à la Gazette Ariégeoise, pour laquelle j'écris notamment des portraits de joueurs de rugby et des commentaires ou des reportages sur l'entraînement, notamment des Loups de Pamiers. C'est un club de rugby qui joue en élite 2 et qui fait du rugby à 13.
Et vous m'avez cité, expliqué, lorsqu'on préparait cette émission, qu'il y avait un rapport avec les ours.
Un rapport, effectivement, parce que les clubs de 13 ont ceci de particulier, qu'au lieu d'être des propriétés d'individus ou de sociétés, elles sont la propriété de leur environnement. Et notamment, il y a une équipe qui s'appelle les ours de Saint-Gaudens et les loups de Pamiers. Et toutes les équipes de rugby à 13 ont un totem animal, un ancêtre qui dit quelque chose. Et en l'occurrence, le loup et l'ours sont bien évidemment des voisins de ces deux clubs qui jouent en élite 1 et en élite 2.
Ce qui nous permet de saluer au passage nos auditeurs de Saint-Gaudens et de Pamiers. Alors, vous publiez, on peut dire, c'est votre premier roman, hein, Dans la peau de l'ours, mais vous aviez déjà effectué quelques publications, et plus précisément, j'ai compris que c'était deux essais et un récit romancé. Alors, parmi les essais, un essai dont le sujet ne surprendra personne, puisque le titre est c'était l'info radio recto verso.
Voilà. Oui, effectivement, parce que ça explique un peu aux gens comment on fabrique l'information. Et il y avait Florence Aubenas qui avait d'ailleurs écrit un livre là-dessus qui s'appelait La fabrication de l'information. Et moi, j'ai voulu parler de la radio parce que c'est un média qui est trop minoré, auquel on pense peu. Or, la radio, c'est le tam-tam tribal, en l'occurrence de bouche à oreille et de bouche à oreille. Donc l'information se répète et la radio a des choses spécifiques qui méritent d'être racontées. C'est ce que j'ai fait dans cet essai.
Alors vous employez une expression qui est la fabrication de l'information. On va y revenir un peu plus tard, mais c'est vrai que cette expression-là, c'est une expression qui pose question par la notion de fabrication, qui dit fabrication dit peut-être quelque chose qui n'est pas naturel ou qui est peut-être monté, mais on pourra y revenir un peu plus tard. Vous avez publié un autre essai qui s'appelle « Fou de la fille au foulard ».
Oui, c'est effectivement sur la question de la relation qu'on a avec la religion, avec ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Et dans cet essai, je raconte l'histoire d'une femme qui porte le foulard et dont le logiciel, cette logique du ciel, s'impose à elle comme une réalité physique qu'elle veut vivre au quotidien dans une classe où ses copains et ses copines ne comprennent pas tout d'un coup sa croyance. Alors c'est pas pour ou contre, encore une fois, mais c'est surtout pour essayer de comprendre de l'intérieur comment nous sommes structurés, comment d'une certaine manière nous sommes fabriqués et façonnés par notre environnement. Nous sommes nous aussi des matières premières pour le monde dans lequel nous vivons. Et nous avons des costumes pour chacune des époques que nous traversons. Et en l'occurrence, le religieux, le retour du religieux, dans ce livre, j'évoque cette question assez fondamentalement.
Et dans un tout autre genre, vous avez publié un ouvrage intitulé « 7h58, le Minerve ne répond plus », à partir d'un fait divers pas ordinaire.
Pas ordinaire du tout, parce qu'il se passe en 1968, avant les événements, c'était en janvier. Le Minerve est un sous-marin, il coule quelque part au large de Toulon, vers Saint-Mandé, et on ne le retrouve pas pendant 50 ans, et surtout on n'explique pas pourquoi il a coulé. À l'intérieur de ce sous-marin, il y a 42 sous-mariniers, des jeunes gens. À l'époque, je suis personnellement stupéfait par cette histoire, parce que je suis un petit garçon, j'ai 10-11 ans, je suis dans la cour de mon école, et j'entends cette information à la radio. Des jeunes gens vont mourir. Et moi, qui me croyais immortel, je découvre qu'on peut mourir sans être vieux. Et donc, à partir de ça, j'essaie de raconter les instants qui ont précédé leur disparition. Le sous-marin, c'est le Minerve.
Alors, comment se fait-il que vous ne publiez, en termes de genre, un roman que maintenant, c'était pas quelque chose qui était impératif, qui était urgent de faire?
Alors, la vraie difficulté pour le journaliste radio, c'est la concision. Et là, tout d'un coup, il me fallait effectivement déployer mes ailes, comme le ferait un papillon, et exposer sur le long cours une réalité que je voulais raconter, une histoire que je voulais décrire. Et je ne savais pas faire, parce que effectivement, à force d'écrire court, synthétique, sans être caricatural évidemment, j'avais l'impression d'avoir été quelque part handicapé. J'avais en ma possession des tas de mots, mais je ne savais plus les déployer.
Il a fallu que vous fassiez de la rééducation, en quelque sorte ?
Non, c'est pas une rééducation, mais j'ai toujours, en réalité, écrit. J'ai toujours été inquiet de la nature des mots, de ce qu'ils disent et ce qu'ils ne disent pas. Et donc, j'ai toujours, dans ma profession de journaliste, choisi mes mots. Et pour l'écriture, ça a été pareil. Par exemple, pour ce roman, je l'ai écrit 4 fois. 3 fois ou 4 fois. En tout cas, c'est pas le premier G que vous avez entre les mains.
Alors, effectivement, cette méthode pour écrire, est-ce que, moi, j'ai, à parole d'auteur, on est toujours un peu friand d'interroger les auteurs en disant, mais comment vous faites, à quel moment de la journée, est-ce que vous vous y remettez plusieurs fois, comment vous captez vos idées, comment ça se passe un petit peu, et plus précisément, comment ça s'est passé pour ce roman?
Alors celui-ci, j'ai eu envie de l'écrire il y a longtemps et je me disais, mais c'est trop polémique parce qu'on va me poser la question pour ou contre l'ours. Et pour moi, c'est pas une question. L'ours est une réalité physique, c'est une réalité sensible que les gens abordent avec des opinions. Et moi, je ne voulais pas être pour ou contre. Je voulais raconter une histoire, raconter le pastoralisme, raconter la présence de l'ours, ce retour, parce que l'ours n'a jamais véritablement disparu. Il a toujours été physiquement présent ou mentalement présent dans l'esprit des Ariégeois notamment, mais pas que. Et donc, j'ai écrit ce livre avec l'intention de, non pas de déplaire ou de plaire, mais avec le souci d'être juste et de poser question en même temps que poser un regard.
Frédéric Bourgarde, vous avez donc écrit un roman. Je vais vous donner la citation des frères Goncourt qui définit le roman et vous me direz si vous êtes d'accord avec eux ou ce qu'il faut enlever, ce qu'il faut ajouter. Les frères Goncourt disaient « Le roman est de l'histoire qui aurait pu être ».
Oui, c'est bien raconté, effectivement, parce que il y a dans tous les romans des choses qui appartiennent à la fiction et des choses qui appartiennent au réel. En réalité, le réel percute en permanence la fiction et l'inverse est vrai. Et donc, je trouve que cette définition est assez juste. En même temps, ce que je constate personnellement aujourd'hui, c'est qu'on fait beaucoup d'autofiction, comme si on s'interdisait de parler de quelque chose qu'on ne connaît pas parfaitement. En l'occurrence, moi, je suis pas berger. En l'occurrence, je suis pas éleveur. En l'occurrence, je ne suis pas un ours non plus, malgré tous les efforts que j'ai fait pour l'être, et je m'autorise à en parler parce que je crois que c'est essentiel.
Et parler d'un sujet, écrire sur un sujet en passant par le roman, permet d'exprimer davantage de choses, d'être plus percutant que de dérouler un essai.
Oui, effectivement, moi j'ai l'impression que le roman, en tout cas tous ceux que je lis personnellement, m'apportent quelque chose parce qu'ils ont, dans la singularité de la manière de raconter, chaque auteur a sa manière de raconter les choses, me donne une épaisseur à moi aussi. Quelque part, ça m'enrichit, je vis des vies, pas celles que je vis, j'en vis d'autres, et ça c'est intéressant. Et dans le roman, j'ai l'impression que ce qu'on propose au lecteur, c'est d'être un autre, de décentrer son regard, de faire pas seulement preuve d'empathie, mais d'être un autre lui-même.
Dans la peau de l'ours, donc, qui vient de paraître cette année, alors je le précise aux auditeurs, l'ours avec un E. Donc le premier point d'interrogation lorsqu'on voit ce livre, on voit le titre, on voit la couverture, que vous pourriez d'abord peut-être essayer de décrire à nos auditeurs, même si c'est un exercice difficile à la radio.
Alors c'est une ours, effectivement, elle est en équilibre sur quelque chose qui pourrait être la Terre ou la Lune. C'est-à-dire que c'est une manière effectivement de raconter que l'ours est à la fois le plus proche et le plus étranger à nous-mêmes. Et cet ours, en équilibre sur cette planète, il est exactement comme nous. Il se pose la question, où allons-nous? Que vais-je devenir?
Alors, c'est un roman, on l'a bien compris, et vous qualifiez votre livre, et vous dites, ce n'est pas un livre militant, c'est un livre inspirant. C'était une volonté du départ?
Oui, tout à fait. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, je voulais évacuer cette question du pour ou contre. Et la question souvent m'est posée. Les lecteurs que j'ai rencontrés dans les différents lieux où j'ai eu l'occasion de paraffer mon livre, de le présenter, me posent la question pour ou contre. Mais cette question, pour moi, n'a pas lieu d'être. Et donc, je voulais absolument ce regard décentré. Et en plus, pour la première fois, me semble-t-il, c'est le point de vue de l'animal qui est un être vivant, qui est sensible, qui, puisqu'il a un cerveau, pense peut-être quelque chose, et pas seulement avec ses instincts, manger, me protéger, me mettre à l'abri des dangers. Et donc, je suis entré dans la peau de l'ours au féminin, parce que précisément, pour que l'espèce ours soit sauvée, il faut qu'il y ait des ours, et donc reproduction.
Alors, de la même façon, vous vous positionnez par rapport au pastoralisme, par rapport au métier de berger, en disant je décris le métier, je décris les conditions d'exercice du métier, mais ce n'est pas un manuel sur le pastoralisme.
Ah non, pas du tout. L'idée, c'est pas de raconter aux éleveurs comment ils font ce qu'ils font. Ils le savent bien mieux que moi. Moi, je suis un béotien total. Mais par contre, pour raconter, décrire, il m'a fallu savoir. Donc, effectivement, rencontrer des gens. Quand je raconte la tonte de la brebis, je me suis pas inspiré, j'ai pas tout inventé. Il y a sur Internet des éleveurs qui montrent comment on tend. Et puis, par mon métier, j'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreux à qui j'ai déjà posé ces questions. Donc, j'ai aussi encore des notes. Et puis, ce que je voulais éviter aussi, c'était de trop entrer dans la problématique seulement économique. Parce que ce qui m'intéressait, c'était les dimensions existentielles.
Alors, dimension existentielle, au-delà de préoccupations économiques, ce qui génère et qui donne un style à votre livre, et là je voudrais vous interroger un petit peu sur votre style, parce que la lecture de votre livre apparaissent des images, des odeurs, des sensations humaines, des sensations de l'ours, dans une, je dirais, une rédaction, un texte qui a des relents très agréables de poésie.
Oui, mais cette dimension, c'est aussi ma personnalité. Je suis comme ça. Peut-être que les auditeurs trouveront que j'en parle trop, mais effectivement, ces sensations-là, pour les transmettre au lecteur, il faut pouvoir les lui décrire de l'intérieur. Et donc, je suis l'ours, je suis l'odeur de la forêt, je suis l'odeur de la pluie sur la terre, et ça me paraissait important. Et les mots, ce sont plus que des images, ce sont des choses qui donnent plus, et cette matière-là, elle est impalpable, mais elle est indispensable à la compréhension, me semble-t-il. C'est pour ça que je voulais absolument donner aussi cette dimension poétique, mais c'est parce que je suis comme ça.
Frédéric Bourgade, je vous propose de faire la première pause musicale. En compagnie de Frédéric Bourgade pour son roman Dans la peau de l'ours, paru, c'était en 2024
2024,
il y a un an. Aux éditions Un autre regard. Frédéric Bourgade, pourriez-vous expliquer et dire directement aux auditeurs ce que nous venons d'entendre?
Alors, nous venons d'entendre un morceau qui est joué par Tigran Amassian, un pianiste arménien de jazz, et le morceau s'appelle Leaving Paris. Et je trouvais que ce morceau, qui a servi de bande sonore pendant le temps de l'écriture, qui était présente dans ma tête, correspondait bien à l'idée de nostalgie et de difficulté à s'enraciner quelque part. Leaving Paris, c'est à la fois habiter Paris, mais c'est aussi quitter Paris. Voilà, et comme mon premier personnage.
Voilà, et on va le voir, le premier personnage, un peu plus tard, qui s'appelle Pierre, et qui effectivement va quitter Paris et aura à cœur à écouter ce morceau, comme c'est explicité dans le livre, une fois qu'il sera arrivé
en Ariège.
En Ariège profonde. Frédéric Bourgade, pourriez-vous nous lire un extrait de votre ouvrage, de manière à ce que l'on sente bien ce dont nous avons parlé précédemment, c'est votre style qui donne des images, des sensations, des odeurs, des couleurs.
Oui, effectivement, le passage que je vais vous lire est très court. C'est la première fois que l'ours se retrouve dans une forêt qui n'est pas la sienne et il sent un danger. D'où vient cette sensation étrange que ma forêt me cache un danger imminent ? Elle, si épaisse, d'habitude si tranquille, elle, si accueillante et riche de mille bienfaits, je ne saurais le dire. Mais de la pointe aux racines des arbres, il y a dans l'air comme un tremblement subtil, une sorte d'onde électrique qui, en vague lettre invisible, progresse sur mes chemins et prend possession de mon territoire. Je hume l'air, n'y sens rien. Mais dans le bruissement des feuilles, le vent me murmure mille précautions à prendre. Des yeux, je fouille le sentier, à la recherche d'une ombre suspecte, inquiète de le découvrir béant sous mes pattes. Pour la première fois de ma vie, je me sens fragile, moi qui impressionne tant par ma stature et ma puissance tous les êtres vivants de ce vaste domaine, moi que l'on considère comme le roi de cette forêt. Pourtant, ce matin, même le silence et la brume me font peur.
On s'y croirait.
C'est exactement fait pour ça.
Voilà. Alors effectivement, il y a cette capacité à retranscrire des ambiances, des ressentis. Et il y a aussi une observation, j'allais dire, animalière.
Oui, mais nous sommes des animaux dénaturés, comme le disait Vercors dans le livre qu'il avait écrit il y a très longtemps déjà, des animaux dénaturés. C'est-à-dire que nous avons effectivement, comme les animaux, comme l'ours, des instincts, des pulsions, des peurs, des choses qui font que nous appartenons nous aussi au règne animal, et que donc d'une certaine manière, l'ours appartient aussi à notre univers. Il n'y a pas de raison, me semble-t-il, même s'il fait peur, de le redouter.
Alors Frédéric Bourgade, est-ce que vous pourriez essayer de définir le contexte de départ de ce roman ?
Alors, l'ours est bien évidemment le personnage principal. Et on va vivre avec l'ours, notamment sa rencontre avec Pierre, qui est le deuxième personnage. Pierre est un Ardéchois qui, comme beaucoup de provinciaux, s'exile à Paris pour gagner sa vie, trouver un métier. Et très vite, il se rend compte que la nature lui manque et que sa vraie nature, c'est la nature. Seulement, que faire quand on ne sait rien faire que ce qu'on avait imaginé ? Et il va découvrir qu'il peut devenir, pourquoi pas, berger. Et il trouve Émile, qui l'accepte. Émile est éleveur de brebis dans l'Ariège, et il accepte, parce qu'il a une petite aide financière de l'État pour prendre un apprenti, de le prendre et de lui apprendre le métier de berger. Et puis il y a Marc, qui est un écolo, qui va conscientiser d'une certaine manière Pierre à la réalité de ce qu'est l'ours et à sa manière d'être parmi nous. Et puis il y a aussi le quatrième personnage qui est un opposant farouche. Et donc on va se trouver effectivement avec ces quatre personnages, dont le principal, celui qui structure l'histoire, c'est l'ours.
Alors c'est l'ours qui structure l'histoire, effectivement. Mais dans la manière dont est construit le texte, on est sur deux points de vue qui s'alternent. Donc le point de vue de Pierre, le point de vue des hommes d'un côté, et le point de vue de l'ours. Alors ça, c'est cette manière de faire, ça a mûri de quelle façon ?
Alors, cette manière de faire, elle a mûri parce que je me suis dit comment faire qu'il soit à la fois avant d'être face à face, côte à côte. Et donc j'ai trouvé cette manière un peu particulière de les rendre présents l'un à l'autre sans qu'ils soient face à face, puisque effectivement il faut attendre un certain temps pour que Pierre découvre l'existence de l'ours, dont il ignore l'existence. Il est Ardéchois, il est d'un petit village qui s'appelle Saint-Cirgue en montagne, et qui existe vraiment. Vous allez le regarder sur une carte, c'est sur le plateau du Tanagre. Je connais bien l'Ardèche parce que c'est ma région d'origine avec la Drôme. Et donc il ignore. Et tout d'un coup, il va se rendre compte de l'existence de l'ours et des problématiques autour de l'ours. Et voilà, Pierre, confronté à cette réalité, va nager lui-même entre les deux, pour ou contre. Et il va s'apercevoir que ce qui l'intéresse précisément, c'est d'abord d'être dans la nature.
Alors, je voudrais que l'on revienne un petit peu à l'ours. Et que peut-être vous nous en fassiez une description peut-être un petit peu plus précise sur différents plans. Au niveau de ses attitudes, de son comportement, de sa personnalité. Et notamment, vous parlez d'intelligence de la situation, de préoccupation au sujet des hommes.
C'est-à-dire que l'ours, bien sûr, il y a un phénomène d'anthropologie, c'est-à-dire qu'on projette soi-même ce qu'on est sur l'animal. Ça, c'est un peu inévitable. Mais l'ours a une personnalité. On ne le sait pas, mais je l'ai découvert et appris, évidemment. Par exemple, Michel Pastoureau, on parle très bien sur des interviews qu'on peut retrouver sur Internet. Il raconte très bien le comportement de l'ours et effectivement, ils ont une personnalité. Un petit ours est différent d'un autre petit ours. Et quand on les voit jouer, on sait qui est bagarreur, qui sera timide, qui va dominer ou qui sera dominé. Et donc, l'ours a une personnalité. Et puis, l'ours, je voulais le faire exister aussi en tant qu'individu parce qu'il a une pensée. Par exemple, avant de rencontrer Pierre, l'ours va le croiser en rêve. C'est-à-dire que l'ours va se mettre à parler humain et Pierre, dans son rêve, va parler ours jusqu'au moment où l'ours va se rendre compte de l'odeur fade de l'homme qu'elle tient dans ses mains et qu'elle prenait pour son ourson. Et donc ce premier face-à-face, il est intéressant et important parce qu'il y en aura d'autres. Mais c'était ma manière de donner à voir et à toucher concrètement du doigt que l'ours pense et que, puisqu'il a un cerveau, il ne fait pas que réagir à des émotions.
Et vous précisez aussi dans le cours du texte que l'ours souffre.
Oui, tout à fait. D'abord, on l'a aujourd'hui reconnu juridiquement. L'ours est un animal vivant. Les animaux sont des êtres sensibles. Et je précise même que peut-être un jour, il y aura, comme il y a une déclaration universelle des droits de l'homme, une déclaration universelle des droits des animaux. Parce que l'ours a peut-être le devoir de ne pas nous agresser, bien sûr, mais il a surtout le droit d'exister. Et tout au long du livre, je raconte cette difficulté qu'a l'homme qui cherche toujours à s'approprier l'environnement, l'espace, qui croit que tout est à lui et que il n'y a pas de lieu pour les autres humains, pour les autres êtres sensibles, vivants, pardon, pour les êtres vivants, qu'il n'y a pas de place pour eux.
Alors, dans la manière dont vous décrivez l'ours, dans la manière dont l'ours se comporte dans le roman, il s'en dégage une certaine sagesse et guidé peut-être aussi par la prudence que peut avoir l'animal vis-à-vis de l'homme ou vis-à-vis des dangers en général.
Oui, parce qu'il y a quand même l'instinct qui prime aussi, c'est-à-dire que l'ours ne connaît pas l'homme, l'ours ne va pas respecter les règles de l'homme, il ne connaît pas la loi, les règlements. Quand il veut traverser la route, il traverse la route, c'est plutôt à l'homme en général à faire attention à la présence ou pas de l'ours. Quand le randonneur se rend en montagne, il est chez quelqu'un, il est chez l'ours, sauf que l'ours évidemment ne va pas l'accueillir, donc c'est à l'homme à faire attention. Et je voulais raconter absolument cette réalité-là, c'est que nous avons nous la responsabilité d'être intelligents pour deux, pour l'ours et pour l'homme.
Vous présentez Pierre, vous avez explicité déjà son profil, son caractère, sa volonté d'être proche de la nature. Et vous situez Pierre dans les premières pages du texte à Paris. Pierre en tant qu'employé d'une agence de tourisme, et Pierre qui finalement prend beaucoup de recul par rapport à l'activité du tourisme, et ce qui vous permet de glisser quelques petites phrases au sujet du tourisme. Alors je vous cite, « Le tourisme banalise l'ailleurs, folklorise la rencontre de l'autre, et transforme les plus beaux endroits du monde en parcs d'attractions. » Est-ce que vous êtes anti-tourisme ?
Je ne suis pas anti-tourisme du tout, je trouve que la dimension touristique de masse, elle est excluante, parce qu'elle fait des gens qui habitent ces lieux, qui vivent dans ces régions, des figurants. Or, je ne suis pas le figurant de ma vie. Et on ne vient pas me voir, je ne suis pas dans un zoo. C'est vrai pour l'Ariège, c'est vrai pour l'ensemble des régions qui sont très, très visitées et où finalement, les habitants sont devenus les acteurs figurants de leur propre vie parce que le lieu est accaparé.
Alors, il y a d'autres personnages dans ce roman. On les laissera découvrir par nos lecteurs. J'aurais une petite question que j'aime bien me poser à des gens qui ont écrit des romans. C'est comment choisissez-vous les prénoms et les noms ?
Alors, il y a des prénoms fétiches, si j'ose dire. D'abord, il faut que ce soit des prénoms courts, parce que ça passe toujours mieux. Il faut que ce soit des prénoms qui renvoient à une époque. Par exemple, Émile, l'éleveur, c'est un vieux prénom. Il se trouve qu'en Ardèche, où mes racines se trouvent, je connaissais un Émile. C'était un monsieur âgé qui circulait à mobylette, la mobylette jaune, avec un casque sur la tête, et que tout le monde connaissait. On l'appelait Milou. Et donc... Donc voilà, il y a des prénoms qui renvoient un peu comme des Madeleines de Proust, et des situations qui renvoient à des réalités humaines qu'on a aimées, et voilà, c'est ma manière de faire aimer. C'est intemporel, Émile.
Alors nous avons vu les personnages, donc le décor est un peu planté par rapport à ces personnages, et il y a un autre aspect très important dans votre roman, c'est le contexte décrit par le métier de berger. Alors vous dites que berger est un métier noble, technique et jeune d'avenir, pour les jeunes d'avenir.
Oui, absolument. D'abord parce que le métier a été d'une certaine manière recréé. C'est parce qu'il y a tout d'un coup des prédateurs de retour dans des territoires qu'il y a besoin de bergers. Autrefois, on ne gardait pas les troupeaux en permanence. Ils étaient libres d'aller à gauche et à droite et on montait régulièrement pour vérifier que tout allait bien ou soigner une bête. Donc ce sont des métiers qu'on a réinventés et qui sont redevenus d'actualité. Donc effectivement, c'est un métier d'avenir en ce sens que la production ovine ou bovine va continuer, sauf qu'elle devra tenir compte de la présence de prédateurs qui, depuis longtemps, avaient disparu.
Alors, vous dites aussi que c'est un métier technique.
Oui, forcément. On évoquait tout à l'heure la tonte. Elle ne se fait pas comme ça par hasard. On ne tond pas quand on veut récupérer la laine n'importe comment, puisqu'en plus, cette laine, c'est une matière première qui peut servir à plein de choses, l'isolation des maisons ou d'autres choses encore. Et donc, oui, ce sont des métiers techniques, de même que agriculteur au sens large. L'agriculteur est un multifonction. Il est à la fois, bien sûr, il soigne ses animaux, il fait parfois ses céréales, il fait parfois son maïs, il fait parfois il fait de la comptabilité, il répare ses outils. Donc finalement, c'est un homme complet, tandis que à l'inverse, nous autres citadins, qui parfois ne savons rien faire de nos dix doigts, comme moi, nous sommes un peu handicapés.
Et vous donnez une autre dimension à ce métier de berger. Vous écrivez, c'est presque comme appartenir à une autre civilisation que d'être berger. Ici, vous faites parler le personnage Pierre. Ici, j'ai l'impression d'avoir 1000 ans. Le berger est le fils spirituel du chasseur-cueilleur. Il prend ce que la nature lui donne.
Oui, et pas plus d'ailleurs. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, le berger, pour le coup, il marche sur les traces, dans les traces de ses prédécesseurs. Le métier a à la fois changé avec les outils dont il dispose aujourd'hui, mais en même temps, c'est toujours le même. Et la base du métier, c'est surveiller, c'est garder, c'est protéger, c'est soigner les animaux. Donc oui, le berger, il a 1000 ans.
Et vous complétez cette définition sur un aspect qui fait habilement le lien avec le sujet général du livre. Il prend ce que la nature lui donne. Bien sûr, l'herbe est gratuite. Alors on peut dire que l'éleveur profite d'un bien commun. Mais il ne fait pas de profit là-dessus, il ne spécule pas, il n'accumule rien.
Oui, à la différence des céréaliers, puisque effectivement les céréales et les compléments alimentaires qu'on donne aux animaux, eux font l'objet de cotations en bourse, la bourse de Chicago pour le blé par exemple, ou d'autres céréales. Et donc c'est vrai que c'est à la fois à tout le monde et à personne. Mais en réalité, on est chez quelqu'un, on est... Parmi les animaux, il y a l'ours, bien sûr, mais il y a aussi les sangliers, mais il y a aussi les chevreuils, et on cohabite avec eux sans difficulté, donc l'ours devrait pouvoir trouver lui aussi sa place, à condition que nous soyons, encore une fois, intelligents pour deux.
Et alors, vous relancez sur le sujet un élan poétique. Quand vous définissez la vie en estive, vous dites « l'estive, c'est le contraire de l'ennui, une poésie pure ».
Oui, une poésie pure, parce que nous sommes dans un monde agité. Parce que je suis un personnage agité, peut-être les auditeurs le sentent-ils d'ailleurs. Il y a toujours en moi une espèce de tension, et en nous, globalement, collectivement, nous avons tous une tension, nous sommes agités en permanence. La vitesse, la rapidité, c'est devenu quelque chose qui est la manifestation de la vie, alors qu'en réalité, il faut aussi prendre le temps de vivre. Et le temps, c'est précisément ce dont nous ne manquons pas, puisque nous avons une espérance de vie de 80 ans au moins. Et donc, je tenais absolument, effectivement, à rendre compte de cette réalité. Le berger, c'est comme le marin en mer. Il a tout l'espace pour lui et rien ne lui appartient.
Le décor est planté et on sent bien que les problématiques sont posées, un certain affrontement entre les pros et les contres. Et vous dites, contre l'ours, il y a trois solutions. Alors on pourrait lire contre ou pour. La première, c'est la désertion. Et dans ce cas, plus d'estive, plus d'agression, mais plus de pastoralisme. La seconde, vous dites, c'est le fusil. Tu le tires, tu le tues anonymement. Et si on te découvre, tu nies. Et la dernière, et légale, c'est la protection des troupeaux.
Oui, et c'est la plus difficile peut-être, parce qu'effectivement, l'ours ou le loup attaqueront toujours. Donc la protection avec zéro défaut est malheureusement impossible. Mais il y a eu beaucoup de progrès dans ce domaine. La présence physique des bergers, la présence des patous ou des border collies, qui sont les chiens de troupeaux. Et puis, il y a peut-être d'autres solutions, effectivement, de contrôle de l'ours avec les colliers GPS qui permettent de savoir où sont les ours et de prévenir la présence physique de l'ours dans un secteur où se trouve un troupeau et un berger. Cela dit, je sais que cet été encore, sur l'estive d'Aréou, il y a eu des attaques de l'ours et les bergers présents ont perdu des bêtes. Donc le zéro défaut, malheureusement, ne sera pas possible. La protection, ça me semble être la solution, mais voilà, je ne suis pas à leur place et j'ai bien conscience de ça.
Frédéric Bourgade, je vous propose d'écouter J'aimerais tant savoir.
J'aimerais tant savoir comment tu te réveilles. J'aurais eu le plaisir de t'avoir vu dormir. La boucle des cheveux autour de ton oreille. L'instant secret où tes yeux vont s'ouvrir. On peut dormir ensemble à 100 lieues l'un de l'autre. On peut faire l'amour sans jamais se toucher. L'enfer peut ressembler au paradis des autres. Jusqu'au jardin désert qu'on n'avait pas cherché. Je m'endors tout seul comme un mort dans sa barque. Comme un vieux pharaon, je remonte le Nil. Les années sur ma gueule ont dessiné leur marque. Mes grands soleils éteints se réveilleront-ils? On dit depuis toujours le soleil est un astre. Il se lève à 5 heures ou 7 heures du matin. Mais chaque heure pour moi n'est qu'un nouveau désastre. Il n'est pas sûr du tout qu'il fera jour demain. Je ne suis jamais là lorsque tu te réveilles. Alors je parle seul pour faire un peu de bruit. Mes heures s'éternisent et sont toutes pareilles. Je ne distingue plus ni le jour ni la nuit. Je ne crois pas en Dieu, mais j'aime les églises. Et ce soir je repense au gisant vénitien qui me ressemblait tant, mais la place était prise. Toi seul sais vraiment pourquoi je m'en souviens. J'aimerais t'en savoir comment tu te réveilles.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Nous sommes toujours dans la peau de l'ours avec Frédéric Bourgade. Frédéric Bourgade, pourriez-vous nous donner le nom du chanteur.
Alors c'est Géant, c'est un chanteur toulousain qui est né dans l'Allier, mais qui a chanté et vécu sur Toulouse, et il chantait Bernard Dimet, qui est un grand poète qui a inspiré et qui a d'ailleurs écrit pour Nougaro ou Léo Ferré également. Et donc je trouvais que la poésie correspondait bien à l'esprit aussi du livre.
Frédéric Bourgade, nous venons de parler de l'estive avec vos descriptions de cet environnement parfois très poétique. Est-ce que vous pourriez nous en donner un petit aperçu ?
Oui, avec plaisir. Ici, le temps qui s'écoule est d'une matière différente, élastique. Une heure peut durer une journée ou bien l'inverse. La météo aussi est changeante. Nuages et soleil dominent tour à tour l'espace. Celle d'aujourd'hui est à l'image d'hier et des prochains jours sans doute. Je lance un ordre bref. Border regroupe les brebis. Patou les pousse gentiment. Plus loin, l'herbe est toujours meilleure, plus verte.
On s'y croirait.
C'est fait pour ça.
Alors je voudrais qu'on aborde un thème qui sous-tend l'ensemble du roman et qui aborde le sujet primordial de la place du sauvage dans notre société, dans notre univers. Alors vous dites le mot sauvage ne signifie pas violent mais libre, indépendant et indompté. C'est à cause de cette définition-là qu'il y a des problèmes ?
Probablement parce que nous voulons tout maîtriser et que nous ne pouvons pas tout maîtriser. Et en l'occurrence, on ne peut pas maîtriser l'animal sauvage. Il est par définition libre. L'ours, d'une certaine manière, est un peu un anarchiste. C'est un double de nous-mêmes. D'ailleurs, c'est pas par hasard que on l'appelle pédescaus, c'est-à-dire en occitan, le va-nu-pied, le vagabond. L'ours, lui, ne respecte pas les règles. La seule qu'il connaît, c'est la sienne, évidemment. C'est celle de la nature. Et il est sauvage sans être forcément féroce. Parce que nous avons dans notre esprit cette confusion. Le sauvage est forcément féroce. Le libre est indomptable ou indompté. Et c'est vrai que le sauvage, l'animal, l'est. Tandis que nous sommes dans des sociétés très normées et avec des contraintes, des obligations qui s'imposent à nous. Et le groupe, en général, le rappelle déjà à l'individu, et c'est toujours cette dualité, cette problématique de l'individu, sa liberté dans le groupe, le bien commun.
Et quand on dit qu'effectivement sauvage n'est pas violent, est-ce que ça sous-entend que de manière naturelle l'ours ou un autre animal sauvage ne va pas déclencher de violence gratuite ?
L'ours, il se protège. En général, les attaques qui ont eu lieu dans les Pyrénées, elles se sont produites parce qu'effectivement, l'ours venait protéger ses petits. Si vous vous trouvez entre l'ours et sa suitée, c'est-à-dire ses oursons, il est clair qu'elle peut effectivement charger. Donc, il ne faut pas crier, il ne faut pas s'agiter, il faut se retirer du passage, il faut lui céder la place, parce que l'ours, elle ne connaît pas les règles de bienséance qui sont passées après moi monsieur, passées après moi madame. Donc, il faut convenir pour lui que c'est nous qui allons faire l'effort de nous retirer. Et c'est vrai que l'ours a besoin de cet espace, et nous avons besoin de cette compréhension.
Alors, vous dites dans le roman qu'il y a des contradictions humaines qui sont mises en évidence justement par l'ours qui les incarne un petit peu. Et vous pointez le rôle très important dans l'imaginaire collectif des légendes autour de l'ours.
Ah ben
alors,
oui.
Alors, quel est le processus là qui anime encore les esprits ?
À la Saint-Martin, à Saint-Martin de Fenouillé, dans les Pyrénées-Orientales, tous les ans, on fête l'ours. Parce que l'ours, pour les habitants de ce village encore, c'est un double de nous-mêmes. C'est un autre nous-mêmes. Il est l'ours comme vous et moi, il marche debout, il a cinq doigts. Et dans la légende, Jean de l'ours, l'ours s'accapare une femme. Je vous raconte en deux mots l'histoire. C'est une bergère qui est enlevée dans un village par un ours. Elle disparaît, on n'a plus de connaissances sur elle pendant quelques années. Et un jour, elle revient au village avec un enfant qui est moitié homme, moitié ours. Et il n'a sa place ni d'un côté ni de l'autre. Bien sûr, c'est une légende, mais c'est pour dire l'entre-deux, justement.
Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui influence beaucoup encore les comportements.
Finalement. Oui, tout à fait. Nous avons encore ça dans nos esprits. Puis l'ours a été le roi de notre forêt avant que le lion ne le remplace. Puisque l'ours qu'on a chassé, l'ours qu'on a réduit à l'esclavage, en esclavage, pour le montrer, pour l'exhiber, comme on le faisait aussi pour les Kanaks à une certaine époque dans nos expositions universelles, eh bien, l'ours a besoin d'être compris. Et donc, nous avons, nous, cet effort à faire.
Et ensuite, on sent bien dans la progression du roman que on se dit il y a un certain nombre de sujets d'affrontement, un enjeu très fort en termes de ce qu'on pourrait appeler de coexistence, de cohabitation, voire de gestion de copropriété.
Voilà, presque. Absolument. Hein? Nous sommes copropriétaires de la Terre avec tous ceux qui y habitent. Nous le faisons avec les humains et nous sommes pour la diversité globalement. Donc, a priori, nous sommes aussi pour la diversité animale et pour sa présence à nos côtés. S'ils disparaissent, c'est que nous sommes sur le point de le faire aussi, de disparaître également. Donc, c'est important de bien comprendre que nous ne pouvons pas habiter tout seuls.
Alors, on ne peut pas habiter tout seul et il faut trouver des solutions. C'est-à-dire que on sent bien qu'il y a besoin d'une médiation nécessaire. Et l'originalité de votre histoire, hein, de ce roman, c'est que vous dites il faut envisager un procès où toutes les parties vont pouvoir s'exprimer pour pouvoir aboutir à des solutions, à un consensus qui permettra d'aller de l'avant.
Oui, effectivement, on le sait peu ou on s'en souvient pas, mais l'homme a fait des procès aux animaux. Au Moyen-Âge, on le faisait. C'est donc que quelque part, on considère que l'animal a une intentionnalité puisqu'on peut lui reprocher ce qu'il a fait dans un procès. Et dans mon livre, effectivement, il y a un moment un peu une acmé, en quelque sorte, c'est le procès qu'on fait à l'ours. Et il a un défenseur. Et il a bien sûr un contradicteur qu'il va l'accuser de tous les maux. Mais le fait qu'il est un défenseur, c'est la preuve que l'homme est capable d'empathie et de compréhension de la démarche personnelle de l'ours. Et j'ai trouvé que ce moment-là était extrêmement important parce que ça renvoie quand même à notre humanité. On ne condamne pas sans savoir et on ne condamne pas sans démontrer.
Alors c'est un message très fort et c'est un message rempli d'optimisme. Donc on voit dans au cours du procès qu'effectivement rien que le fait de permettre aux différentes parties de s'exprimer, ça apporte de la sérénité, de l'apaisement. Et puis il y a un petit point dans votre roman qui m'a bien plu aussi, c'est que vous dites quand même que on peut avoir un jugement à condition pour autant qu'on ait accès à un certain nombre d'informations objective, à condition de savoir gérer ses émotions aussi. Et vous faites une petite tirade en parlant des journalistes à travers le personnage de Pierre. Vous dites, il façonne notre vision du monde, il n'y a pas de vrai mystère, juste des savoir-faire, de la pratique, des réflexes professionnels, une culture générale et de l'intérêt pour raconter des histoires qui arrivent aux autres.
Oui, ça c'est à un moment particulier où effectivement les journalistes débarquent dans le village parce qu'il y a eu un événement qui justifie leur présence. Et donc Pierre découvre la fabrication de l'information. Et nous y revenons. Effectivement, un fait n'existe en lui-même, il existe intrinsèquement. Mais il n'a de valeur que s'il est travaillé, que s'il y a une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, c'est le travail du journaliste. Donc ça c'est très important effectivement, c'est un moment particulier. Et je pense que les lecteurs apprécieront, parce que sans révéler les ficelles du métier, pour le moins j'explique. Ce sont des individus qui sont façonnés eux-mêmes par leur époque, qui appartiennent aux préoccupations du monde et de leur univers. Et les voilà tout d'un coup plongés dans l'histoire des autres. Et pour la comprendre, il faut la travailler. Et je trouvais que c'était intéressant de raconter ça parce que c'est un peu l'envers du décor.
À la fin du roman, Pierre dit, et puis un matin, c'est le déclic. Je sais enfin quoi faire de ma vie, mais je n'en dirai pas plus loin. C'est-à-dire que vous faites évoluer et cheminer la réflexion existentielle du personnage.
Oui, c'est-à-dire que Pierre, au début du texte, ne sait pas vraiment qui il est. Il a en lui des choses qui sont ancrées. Il sait qu'il veut ne pas vivre à Paris parce que c'est trop monstrueux, c'est trop difficile, c'est trop, trop de monde. Mais il ne sait pas vraiment qui il est. Et donc, il cherche sa voie, V-O-I-E, un chemin, dans lequel il pourra donner de la voix, V-O-I-X.
Frédéric Bourgade, votre prochain ouvrage se déroulera-t-il dans la nature ?
Oui, la nature humaine, toujours, bien sûr, mais le prochain s'appelle « La fille de l'entre-deux-mer ». L'entre-deux-mer, c'est bien évidemment le canal du Midi, à quoi on pense, mais c'est aussi, dans mon roman, « La fille de l'entre-deux-mer », un lieu, c'est-à-dire une station-service d'autoroute, qui voit circuler le monde, et mon personnage principal, Lisbeth, est une jeune fille qui cherche également son chemin et qui veut échapper à son destin, celui de n'être que la fille de sa maman, et qui cherche aussi à être pleinement elle-même.
Frédéric Bourgade, mille merci d'avoir accepté l'invitation de Parole d'auteur. Je rappelle le titre de votre roman, Dans la peau de l'ours, paru cette année en 2024, décidément, aux éditions Un autre regard. Merci aux auditeurs pour leur fidélité. Merci à Jonathan à la technique. Je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission et je vous rappelle aussi qu'elle est disponible sur toutes les plateformes numériques en podcast. Au revoir et bonne lecture.
Aussi libre que moi. Vous aimez les émissions de Radio Présence ? Vivante Église. Parole d'auteur. La conférence de la semaine. Des clés pour vivre.
Présence.
Toutes ces émissions et bien d'autres encore sont disponibles sur CD. Commandez-les par courrier à Radio Présence,
4 rue des Feuillants, 31300 Toulouse.
Ou par email à contact@radioprésence.com.
Présence.
Présence.
L'onde positive. Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, la vie des chrétiens en Midi-Pyrénées. Des invités en direct, l'actualité de l'Église dans toute la région.
Vivante Église.
Du lundi au vendredi à 9h03. Vivante Église, une émission présentée par Nathalie Cardon, Éric Dupri et Isabelle Duché.